Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could be gaming.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de RNG. Vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. Salut Swill.
Pas bien, ça va et toi?
Pour cet épisode, du coup le troisième de cette saison 2,
on voulait
aborder un sujet qui, on va dire, est un peu compliqué à éviter, surtout en cette année de juillet qui vient de s'écouler, donc en 2024. Et c'est celui du wokisme, genre vraiment un mot... On entend un peu partout. Et en fait, si on a voulu traiter de ce sujet-là, c'est notamment parce que il y a pas mal de polémiques qui ont surgi sur les derniers mois. C'est vraiment, je pense, 6 mois où c'est impossible de passer à côté du terme, que ce soit sur les réseaux sociaux anglo-saxons ou en France.
C'est le débat de 2023.
Ouais, c'est un peu le débat de est-ce que tel jeu est woke ou pas ? Est-ce que le wokistan, ça pourrit l'industrie du jeu vidéo ? Et du coup, je vais laisser un peu Swill en parler sur son ressenti, parce que c'est parti d'un petit ras-le-bol qu'on a eu tous les deux.
Ça. En fait, c'est un ras-le-bol qui, dans l'idée, il n'est pas propre à 2024. En fait, il est issu... Il a commencé à émerger vraiment plus en 2023. Et comme on en a parlé l'année dernière dans le bilan de 2023, ce qui s'est passé, ça a été une année absolument folle pour le jeu vidéo en termes de propositions. 2024 aussi, un peu moins quand même. Je pense que c'est compliqué d'égaler une année comme 2023. Mais il y avait déjà un peu ces débats-là en 2023, déjà vis-à-vis des jeux qui se veulent inclusifs, la place du woke dans le jeu vidéo, ce genre de choses. Et en fait, 2024 a été une année qui, comme on l'a dit, moins fat en termes de propositions. Ça a laissé plus de place pour que ce genre de débat soit, on va dire, un peu plus bruyant.
Ouais.
Et... en fait, nous, ça émane en fait un peu d'un ras-le-bol qu'on a vis-à-vis de cette année. C'est qu'en fait, ça a été une opinion qui est partagée. C'est qu'en fait, c'est une année qui est très difficile à suivre en termes de communication et en termes d'actualité, en fait. Et ce qui est un peu paradoxal et compliqué, comme voilà, nous, on parle d'actu JV, on aime ça, tout ça et tout. Mais c'est triste de se dire qu'en fait, c'est une année qui a été vraiment pas agréable pour être vraiment lisse. Vraiment insupportable à suivre. C'est-à-dire, il n'y a pas eu en fait une sortie de jeu majeur sans qu'il y ait avec son lot de débats très souvent stériles, parce qu'on va un peu donner notre opinion, parce que voilà, on est chez Radio Campus Paris, nous on peut dire ce qu'on veut dans l'idée, c'est-à-dire on doit rien à personne, enfin quand même on est à la radio, faut qu'on soit calme, mais on doit rien à personne, on n'a pas de main à mordre. Donc, nous ça voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de débats, je sais pas. En vrai, Stellar Blade, si on peut commencer par quelque chose, un jeu, je sais pas, mais pour illustrer un peu le problème, en fait.
Ouais.
Je sais pas si on peut commencer par Stellar Blade, qui as fait Stellar Blade, par exemple.
Moi, je pense que Stellar Blade, c'est un bon point d'entrée vis-à-vis de ce débat-là, parce que c'est le jeu qui a été un peu, qui est devenu le porte-étendard de qu'est-ce que c'est un jeu qui n'est pas woke ? Qu'est-ce que c'est un jeu qui est là pour sauver le jeu vidéo ? Stellar Blade, c'est un très bon jeu d'action-aventure, vraiment sorti du coup par le studio, c'est Shift Up, qui est un studio coréen. Et donc voilà, exclusivité PlayStation, qui peut-être va arriver sur PC, là ça a été évoqué récemment. Et moi, ce que je trouve intéressant avec Stellar Blade, c'est que voilà, c'est un jeu qui reprend Nier Automata, reprend ce côté un peu gameplay à la Platinum Games ou à la Souls-like, avec des mécaniques de gameplay assez exigeantes, de contre et de rythme et tout.
Très Sekiro.
Très Sekiro, ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, c'est très chouette, mais comme le personnage donc, de Eve, qui est l'androïde un peu principal qu'on incarne, est vachement... je vais dire sexualisée, mais on va dire non,
très sexy.
Elle est pas sexualisée, il y en a, ils vont dire juste, voilà, elle est hyper belle, mais c'est tranquille, alors que bon, le jeu quand même met en valeur ses pas. Ça a été vu comme, à regarder, en Asie, voilà un personnage de femme tel qu'on les imaginerait depuis, je sais pas, 10-15 ans, et en Occident, on va être là, en mode, vous avez vu, genre, on va se taper genre Aloy de Horizon, ou la meuf de Star Wars Outlaws, et ils vont être là en mode, oh mon dieu, quelle bande de laiderons. Et c'est parti de ça que donc là Stellar Blade a été érigé, et moi je trouve que c'est un vrai problème parce que c'est pas normal entre guillemets que genre on plébiscite un jeu parce qu'on se dise ma poupée sexuelle genre elle est là, elle est genre en mini jupe, et le jeu a quand même été taxé de censure parce qu'après ça, son patch day one, on a raccourci un peu les jupes, et donc moi je trouve que c'est un peu ça, c'est qu'il y a une hypocrisie derrière pour dire non mais en fait il y a de la censure avec le wokisme, je veux dire qu'on veut plus sexualiser des personnages féminins. Et au final, tout ce que les gens veulent, c'est justement, ils veulent sexualiser des femmes.
Ils veulent que leur personnage de jeu vidéo soit conforme à leur fantasme.
Voilà, c'est de la pornographie. Vraiment, il y a un côté très... C'est de la pornographie en mouvement. Et je dis ça alors que j'aime beaucoup le jeu. Je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu. Mais il y aurait moins de chair, ça n'aurait pas attaqué vraiment les qualités du titre. Surtout qu'il y a un rapport intéressant qu'on pourrait faire sur les thématiques que ça veut traiter, un peu comme Nier Automata, au corps, à qu'est-ce que ça veut dire d'être humain ou pas. Mais au final, ça n'a même pas été le débat qui est venu, entre guillemets, genre, dans la sphère publique. Ça a juste été un débat de qu'est-ce qu'on représente et c'est quoi la représentation la plus, genre, entre guillemets, libre qu'on va avoir. Et du coup, comme tu veux parler de Stellar Blade, voilà, genre, globalement, c'est le jeu qui a été érigé pour contrer les autres. Et parce que, bah, donc, depuis un an, là, cette année, donc, on a eu Silent Hill 2, il y a eu des débats par rapport à la femme de comment il s'appelle, de James.
C'est ça, la femme de James. Il y a eu un autre personnage secondaire qu'on voit dès le demi-jeu, dont j'ai oublié le nom, qui en fait, quand il y a eu les trailers, les gens étaient en mode elle est incroyablement laide, ou ça et tout. Et je trouve qu'avoir ce genre de débat, genre, vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, en fait, ouais. pour expliquer aux gens qui peut-être n'ont pas vu la polémique, ce qui peut être tout à fait normal. Quand le trailer, pas le premier trailer, hein, c'était, je crois, début d'année, quand il y a eu un trailer pour Silent Hill 2 qui montrait les différents personnages. On est sur le personnage féminin, hein. J'ai oublié le prénom, ça m'agace, mais qui a lancé pas mal de débats, tout simplement parce que c'est un... Les gens ne la trouvaient pas belle, en fait. Ouais, et je trouve ça absolument atroce. Et les gens qui ont fait Silent Hill 2 savent qu'en plus, c'est un personnage qui... pas mal de traumas, pas mal de choses qui, en plus, ça explique pas mal de choses vis-à-vis de ce rapport qu'ont les hommes
aux femmes
et tout. Et voilà, c'est clairement, voilà, c'est juste un... C'est juste une femme, tu vois, genre, même Aloy, un personnage comme Aloy, les gens adorent la trouver. Je sais pas pourquoi, c'est trendy de dire que Aloy est moche, ou de... parce que, en fait, les gens ont zoomé sur son visage et, en fait, ils ont vu qu'elle a un petit duvet... Au niveau
des joues.
Au niveau des joues, ouais, ils sont en mode what, comment ça, mon personnage féminin dans un jeu vidéo, il a des poils, genre des gars, triste à dire, mais les femmes aussi en ont, quoi. Mais...
Ouais, non, mais c'est ça, c'est en fait, c'est qu'on là, on cite un peu ces exemples-là pour montrer que là, on parle de Silent Hill 2, on parle donc de Horizon Forbidden West, on peut parler de Warhammer Space Marine 2, on peut parler de Dragon Age Vanguard, on pourrait citer plein de titres qui sont sortis donc là, il y a 2 ans ou cette année. Et à chaque fois, il y a eu un débat de est-ce que c'est woke. Et du coup, pour définir un petit peu ça, dans cet épisode, on voulait parler de, finalement, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un jeu woke, ça correspond à quoi? Parce que c'est un peu un terme fourre-tout, c'est ce qu'on se disait avec Swill. Et du coup, voilà, je vais peut-être laisser Swill en parler un peu, mais au final, vu que là, on a tous ces débats-là, c'est, premièrement, c'est quoi un titre qui se voudrait woke?
Bah, déjà, si on est... on va essayer d'être scolaire, il faudrait déjà définir le terme woke. Et qu'est-ce qu'on en pense du terme? Bah en fait, le problème qu'on a avec le terme de woke, c'est que clairement ça vient pas de nulle part, mais le reproche qu'on aurait avec ce terme aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui c'est un peu un terme valise, et très clairement, on va dire les choses clairement, il y a eu un processus, on va dire, de décrédibilisation clairement de la part de l'extrême droite vis-à-vis de ce terme là pour en fait un peu diaboliser ce terme là et le mouvement qui est clairement issu qui a vu, on va dire, sa jeunesse du mouvement MeToo, qui en 2017 ou 2016, on est dans ces eaux-là. Quand il voit là, sur Twitter, clairement, c'est là où il y a eu le hashtag MeToo. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire là-dessus. Mais c'est un mouvement qui ne vient pas de nulle part. Mais le problème qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du terme woke, c'est qu'en fait, c'est un terme qui clairement ne veut rien dire. Dire que quelque chose est woke ne renvoie pas vraiment à quelque chose, en fait. Et c'est quelque chose qui est voulu par l'extrême droite, parce qu'en fait, c'est juste, clairement, c'est des gens qui. Clairement, ne veulent pas essayer de comprendre ce mouvement-là, qui ne veulent pas le supporter, essayer de le tolérer ou de le comprendre, en fait. Et donc, c'est une logique assez classique qu'on a souvent à l'extrême droite, c'est de décrédibiliser en prenant un mot qui va être un mot valise et qu'on va sortir à n'importe quelle sauce. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un terme qui veut vraiment qui est un terme valise,
c'est ça, parce qu'à la base il y avait un peu l'idée de voilà, woke, être woke c'était stay woke, surtout aux États-Unis, c'est dans les mouvements assez libéraux de minorités, de se dire que pour avoir conscience qu'il y a un système, qu'il y a des oppressions systémiques à travers en masse et tout, voilà, que ça casse, qu'on veut surtout qu'on est afro-américain et qu'il y a plein de choses, du capitalisme en France, l'idée c'est de se dire ok, stay woke, reste éveillé, et donc d'avoir conscience de toutes les formes d'oppression qu'on pourrait subir. Mais c'était un terme entre guillemets, voilà, qui était assez dans des entre guillemets, t'es dans cette communauté-là, mais personne disait « Ah mon Dieu, t'es woke », tu vois. C'était ce que dès là, de, t'es plus avoir une sorte d'état d'esprit à avoir en tête. C'est sorti de Segonda parce que ça a été, ça s'est répandu dans les sphères universitaires, qui a eu beaucoup, du coup, d'essais là-dessus, de sociologie qui s'est faite pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça impliquait au niveau de la sociologie et choses comme ça. Et en fait, en France, on sait que le mouvement, il est venu parce qu'avec ces news, il y a eu cette idée de commencer à critiquer les, tout ce qui est à la fac, tout ce qui est ces cours-là, justement, un petit peu plus libre et tout. Voilà. L'université, genre l'islamo-gauchisme, c'est là que c'est venu à peu près, hein, ça arrive. Genre, on a parlé de wokisme au même moment où on s'est dit « Ah, mais en fait, à l'école, maintenant, on apprend aux enfants à être des trans et à arrêter de jouer au foot. » et bref, tous ces genres de conneries.
Et la lecture qui est faite par des drags qui vont corrompre nos enfants, voilà, et vont se mettre à manger du soja.
Et du coup, en effet, donc le terme valise est mis à pression là pour ridiculiser tout ça et se dire et pour dire voilà que tout simplement ça voulait être l'anarchie, que maintenant être woke c'était vouloir de l'inclusivité partout, vouloir de la pluralité,
pas prendre en compte les différents,
genre, voilà, chose. Et en fait du coup donc ça maintenant qu'on a établi ce que c'est qu'un ce que ça devrait être entre guillemets le wokisme, bah maintenant qu'est-ce que ça serait un jeu woke en théorie du coup pour ces gens-là, un jeu woke c'est un jeu qui serait régi par un lobby qui aurait en tête de vouloir rendre tous les personnages trans, tous les personnages queer,
sweet baby,
voilà, tous les personnages plus blancs et hétéros, choses comme ça. Et en fait le problème qu'il y a, c'est que on peut là on en parlait avec celui-là un petit peu avant d'enregistrer l'épisode, on peut émettre des réserves sur comment est-ce qu'on amène certaines diversités ou certaines représentations de personnages. Par exemple, je pense que Dragon Age Vanguard, si c'est un exemple qu'on veut évoquer, je l'ai pas encore fait parce que non plus mais il tentait un petit peu. Je suis regardé pas mal de let's play, j'ai regardé pas mal de choses. Le jeu est quand même vachement sympa.
C'est vrai que ça a l'air bien.
Et franchement, un personnage queer, du coup, qui serait donc transgenre ou autre, ça va pas vous gâcher le titre. Je peux comprendre qu'il soit assez mal écrit. Je trouve que les dialogues, les choix qui sont faits autour sont peut-être... Ça semble un peu comme un cheveu sur la soupe et c'est mal amené. Mais c'est la forme qui dérange plus que le fond. Le problème, c'est pas que le personnage soit transgenre. Et du coup, le problème, c'est que en tant que communauté, vous fixez des combats où vous dites « Ah, le problème, c'est que ce personnage soit ci ou ça. » C'est pas parce qu'il y a un personnage noir, genre un samouraï noir dans un jeu vidéo de fiction, que tout de suite, le jeu va être mauvais. C'est comment est-ce qu'il est amené ou pas, ou est-ce que, entre guillemets, genre, ma suspension de la crédibilité y croit. Mais le fait est que tout le monde devienne un expert du Japon féodal en mode « Non, mais Sasuke, Yasuke, ça a jamais été un... Yasuke, pardon, ça a jamais été un samouraï, etc. et tout. » Genre, le personnage, je sais pas trop, je fais « Eh, les gars, en fait, genre, dans Assassin's Creed 2, vous tapez le pape. » Genre, à un moment donné, qui vous envoie des lasers et la pomme d'Éden.
Est-ce qu'on a vraiment parlé le côté vérité historique de Assassin's Creed? Non, là, il n'y a pas de débat. Voilà, genre, vraiment,
donc, là, j'en brille un peu le truc, mais c'est tout simplement pour dire que genre, le problème, c'est pas l'inclusivité. Et en n'importe quel autre cadre de fiction, ou même dans la vie réelle, si vous étiez à une table et vous étiez en train de dire « Non, mais moi, je trouve qu'il y a trop de noir, oui, il me faudrait moins de noir dans mes trucs. » Tu sais, vous vous regarderez de travers, vous vous regarderez dans le miroir, vous vous direz « Mais qu'est-ce que je suis en train de devenir ou qu'est-ce que je suis en train de dire là ?» Parce que foncièrement, c'est pas le problème de représenter tout le monde. Genre, qui que vous soyez, femme, homme, transgenre, hétéro, ce que vous voulez, à la fin de la journée, tout le monde a le droit d'être représenté, tout le monde a le droit d'avoir des œuvres qui leur parlent, qui leur communiquent. C'est important d'avoir cette représentation-là. Et du coup, c'est pas un souci que ça soit présent. Et jusqu'à preuve du contraire, là, tous les jeux qui sont sortis cette année, il n'y a aucun jeu qui foncièrement a été... tu sais, on pourrait l'attaquer et se dire « Ah, c'est parce qu'il a cette impulsivité-là qu'il est mauvais. »
Oui, exactement. Là, je pensais à un jeu là, qui est sorti récemment dont j'ai... Je sais pas si tu vois le nom du jeu. Même si je crois que c'est un groupe de musique. Dustborn. Et du coup, on a ce jeu-là qui est sorti récemment, il y a quelques mois, qui s'appelle Dustborn, pardon, okay. Et qui a été un immense flop. Et c'est un jeu qui, en plus, se voulait ultra inclusif, mettre en avant des personnages minorités, des femmes noires, ce genre de choses. Et le jeu a floppé, et il y a eu une vague clairement de haine sur Twitter, et sur les réseaux sociaux, sur Reddit aussi, clairement, sur Reddit, pour attaquer le jeu en disant que si le jeu avait floppé, c'était parce que c'était un jeu qui voulait respecter un agenda politique, Sweet Baby Inc. était de la partie, on va parler tout à l'heure de Sweet Baby Inc.
Ouais.
Mais les gars, si le jeu il a floppé, c'est parce que c'est un jeu de merde en fait. c'est pas parce que le jeu a, si apparemment voilà, il aurait complété un agenda politique et tout, ce jeu se voulait woke tout ça et tout. Clairement, ok, peut-être c'est pas la question, mais si le jeu a foiré, c'est que c'est un mauvais jeu. Et je pense que on a un gros problème cette année-là avec la manière dont considère le médium, en fait, c'est que juger un jeu sur est-ce qu'il est woke ou non sur sa sur sa stat de wokitude, je sais pas comment expliquer ça, ça n'a aucun sens. C'est une manière totalement erronée et malsaine de concevoir le médium. Et clairement, je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, parce que clairement, on est face... Moi, je considère vraiment ça comme une forme de paranoïa collective, en fait, sur une peur qu'ont les gamers face à une quelque chose qui émane de rien, en fait. Et clairement, il y a même eu un fameux tableau qui était sorti cette année par un groupe de gars qui recensait pas mal de jeux et qui expliquait si ce jeu-là était woke ou non. En gros, c'était une sorte de guide de « est-ce que tu dois jouer à ce jeu ou non ?» Parce qu'il y a clairement une grosse communauté de joueurs qui ne veulent pas être en contact, ne veulent pas engager avec des jeux qu'ils considéreraient comme woke.
Ouais.
Et je trouve ça d'une tristesse absolue. Et surtout, j'ai regardé la liste, et quand il y a des jeux... Et on voit aussi que c'est clairement, je veux dire, c'est des mecs qui sont complètement stupides.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez. RNG.
Quand on voit des jeux comme Elden Ring être considérés comme woke, c'est clairement, ça témoigne d'une vanille, bon, je vais essayer d'être gentil, d'une non-compréhension, en fait, de l'œuvre qu'on vous donne, en fait. Genre, c'est-à-dire que, en termes de lecture, on est à des années-lumière, mais on est dans un score qui est négatif, mais vraiment, on est à moins 400 de QI. Genre, vraiment, considérer Elden Ring comme un jeu woke, alors que c'est un jeu qui parle de sujets comme l'a très souvent fait From Software, comme un jeu comme Bloodborne. C'est un jeu qui met en avant des personnages féminins très forts, qui parle de maternité, plein de thèmes comme ça, où vous avez des personnages comme Radahn, qui pourrait être voilà, le giga-chad, voilà, on va utiliser des termes de Redditar. Voilà, le giga-chad Radahn, qui clairement perd, parce que oui, c'est le cas, si on engage avec leur père face à Malenia, qui elle est considérée comme... la meuf qui a le dit elle-même, elle n'a jamais perdu. Une déesse qui est la déesse Marika, genre plein de personnages féminins là qui sont hyper intéressants. Et après, considérer un jeu comme Elden Ring, comme ce jeu-là, comme
le réduire à ça en disant « Ah mon Dieu, c'est de l'inclusivité. »
C'est débile. C'est débile. C'est totalement stupide. Et je pense qu'il y a un problème là sur la manière qu'on a de concevoir le médium. Parce que pareil, c'est un jeu comme Stellar Blade a marché. C'est pas parce que l'héroïne, elle est sexy. Non. C'est parce que c'est un action RPG de qualité, avec des combats hyper cool, une histoire prenante. Parce qu'à la base, un jeu vidéo, c'est ça. C'est-à-dire que je vais ultra vulgariser, on va même penser que je vais être réducteur, mais un bon jeu, c'est quoi? C'est un jeu qui arrive à faire en sorte que le gameplay soit dans une osmose, dans une sorte de fusion avec l'univers qu'on vous propose, la narration, les personnages, que les actions, voilà, l'interactivité qu'on a dans ces œuvres soit justifiée par l'univers. Et c'est très réducteur, un jeu vidéo, bien évidemment, ça va plus loin que ça. Mais si Nier Automata est un excellent jeu, qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, clairement, c'est parce que c'est un RPG poussé qui a des thèmes comme le transhumanisme, qui parle de thèmes ultra intéressants. Mais c'est aussi un RPG excellent. C'est pas parce que la meuf se balade en mini-jupe avec des bas et que si vous baissez assez la caméra, vous pouvez entrevoir sa culotte. Non, non, non. Ouais. Les gars, c'est pas ça. Parce qu'apparemment, il faut avoir ce débat. Et c'est d'une tristesse absolue. Et pareil pour Last of Us 2. Last of Us 2, pour vous montrer à quel point que ça date pas que de 2024 et de 2023. Last of Us 2, c'est un jeu qui est sorti en 2020. Et avant même que le jeu sorte, je me souviens, le jeu est sorti en juin 2020. En mai 2020, quand il y a eu les leaks sur Reddit, et que, avant même la sortie du jeu, il y avait des posts, des vidéos YouTube, des threads à plus qu'à savoir en foot sur Twitter, des gens qui expliquaient comme quoi il ne faudrait pas jouer à Last of Us 2 parce que ce serait un jeu qui serait LGBT, je sais pas quoi. Non, mais c'est lunaire, en fait, parce que, voilà, maintenant, on peut se permettre de spoiler Last of Us 2. Si Neil Druckmann... Si Neil Druckmann il décide de tuer Joël au début de Last of Us 2, en plus il l'a fait tuer par une femme Abby, voilà, Abby qui est une meuf musclée, voilà, qui clairement correspond pas
au canon de beauté traditionnel, standard,
on va dire. Clairement. Et c'est pas parce que voilà, c'est un jeu woke, non, c'est parce que Neil Druckmann, qu'on le veuille ou non, il a eu des choix osés vis-à-vis de l'écriture de Last of Us 2, et tuer Joël, non, c'est pas parce que c'est Adam Soja qui est devenu faible, qui perd face à la pseudo-transgenre, parce que clairement, vous voyez ce que ça implique, c'est que on est clairement face à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur donne à manger.
Ouais.
C'est-à-dire que, quand, avant même que le jeu sorte, des gens stipulaient, et je trouve ça absolument dégueulasse, stipulaient qu'en fait, que le personnage d'Abby était un personnage trans. Ce qui est totalement faux. J'ai joué au jeu, c'est faux. Ouais, genre, spoiler. C'est vrai, Abby n'est pas un personnage trans, et ça montre à quel point on est dans une forme de déconnexion réelle vis-à-vis de... j'ai pas le terme en français, mais clairement de médialittératie, de comment on conçoit l'histoire qu'on nous donne, en fait. Donc voilà, je suis parti sur un long monologue.
Non, mais si, bon, on va faire un pont là-dessus, pour rebondir. Moi, je pense que voilà, The Last of Us, de toute façon, on en a pas parlé dans l'émission, mais on en parlait nous en off. C'est ce jeu-là qui... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le premier est sorti en 2013 et le deuxième en 2019-2020, pardon. Et du coup, on voit comment déjà l'industrie a changé. Parce que pour moi, la conclusion qu'on va essayer d'amener progressivement, c'est que le problème du jeu vidéo, c'est pas le wokisme. Le problème du jeu vidéo, c'est que l'industrie, pour le coup, elle devient de plus en plus, genre, j'ai envie de dire gourmande, en fait. Mais on le voit avec la PS5 Pro, on a fait un épisode là-dessus pour dire que c'était pas normal une politique tarifaire pareille. Pour voir la dématérialisation, pour voir les jeux à service, pour voir tout ce qui va mal dans le jeu vidéo, il y a plein de choses. Il y a le vidéo de Conquerax, qui, pour le coup, dépend beaucoup le médium physique, et qui a une sorte de ras-le-bol en disant « j'ai l'impression que le jeu vidéo était mieux avant, alors qu'il voulait pas être de vieux con », mais c'est un sentiment qu'on partage beaucoup. Pas parce qu'il y a plus de bons jeux, il y a toujours des très bons jeux, mais parce que l'industrie, elle change de sens et que la communauté, elle devient assez nauséabonde. C'est compliqué de se sentir entre guillemets gamer et d'échanger avec plaisir sur des forums quand on voit que la plupart des gens sont cons. Et The Last of Us, ça se voit bien parce que quand le premier est sorti, tout le monde l'a à peu près adulé, d'autres ont détesté parce que voilà, c'était un peu hype. Mais quand il y a eu le DLC Left Behind, le fait est qu'on révèle que du coup, bah, Ellie, elle va plutôt être lesbienne. Ça m'a fait un petit peu réagir, mais bon, à la fin, les gens n'ont pas dit « le jeu est mauvais », juste genre, les gens ont dit « ah, oh, ok, bon, il y aura toujours des cons partout, mais il y a eu quelques réactions, mais ça allait ». C'est là sa phase de sort, donc quasiment, on va dire, 7 ans après. Et là, les réactions qu'il y a eu, genre le review bombing, le fait d'être vraiment de dire « non, mais il faut que Neil Druckmann, il démissionne, il faut qu'il se casse de Naughty Dog, il est en train de pourrir le studio », c'est vous dire à quel point il y a même du harcèlement, en fait, sur l'actrice qui joue Abby. Et c'est assez affolant de voir les proportions que ça a pris, parce qu'en 7 ans, il y a un glissement réac qui s'épaît, et on le voit avec la figure de Joël, qui foncièrement, si les gens l'ont autant aimé, c'est quand même un anti-héros. Moi, je trouve ça assez fort que c'est un personnage que tout le monde aime, moi pareil, mais à la fin, c'est pas une bonne personne. C'est pas quelqu'un où, de base, passer le choc, c'est là le paradoxe.
C'est parce que c'est un personnage extrêmement bien écrit.
Voilà, et c'est parce que c'est un personnage extrêmement bien écrit, et ça montre la force de l'écriture du personnage, que malgré le fait que ça soit quand même une enflure sur pas mal de points, on l'aime et on a envie de l'apprécier. Comme un Tony Soprano, ou comme d'autres personnages dans différents médiums, pardon. Et donc, moi, ce que je trouve assez agaçant, c'est de projeter dans Joël quelque chose, enfin, une sorte de crise un peu de la masculinité qu'il y aurait, de se dire que, ah, mais en fait, on a l'impression qu'on peut plus être homme à notre époque, que genre, du coup, maintenant, faut être le plus proche d'une femme, ou alors si, enfin, c'est dans vos têtes. En gros, là, genre, je vais pas m'embarrer,
merci.
C'est dans vos têtes. C'est dans ma tête, ouais. Pas du tout encore. Le fait est que Joël se fasse tuer dans The Last of Us 2, ça ne veut pas dire que, ah mon dieu, il n'y aura plus d'hommes forts blancs dans différents arts, dans des œuvres et tout, dans un monde post-apocalyptique. Et ça se voit pareil avec Warhammer. Je regardais Space Marines 2 sur la tête d'affiche, c'est un blanc ultra musclé. Genre Henry Cavill qui est là derrière en mode, let's go, c'est un jeu de ouf. Et vous êtes là en mode, non mais il y a des femmes en armure, c'est quoi ce bordel? Dans le lore, il ne devrait pas y en avoir. T'as des mecs qui ont dit, j'ai des vidéos à des centaines de milliers de vues, le mec a dit, non mais je connais pas trop le lore, mais je crois que. Mais qu'est-ce que je... Enfin, tais-toi, en fait. Genre, on s'en fout. Il y a un moment donné où c'est des œuvres de fiction. Et donc, il y a un moment donné, genre, comme a dit Swill, un jeu vidéo, on l'apprécie pour son gameplay, pour son histoire et donc son écriture. Et c'est pas une grille de lecture qui est louable. En fait, on peut en faire, pour le coup, si on peut causer des recherches, faire de la sociologie là-dedans, dire qu'est-ce que ça représente. On l'a fait quand on parlait de les héros dans le jeu vidéo. Genre, la plupart des... Comment sont représentées les femmes, les hommes et tout. Ça peut être intéressant parce que ça en dit beaucoup de notre société. Par contre, commencer à penser genre qu'il faut boycotter des jeux comme Concorde ou autre en disant non mais si le jeu a pas marché c'est parce que les personnages ils sont là sur le lobby un peu
juste un jeu de merde,
c'est juste un mauvais jeu. Concorde, s'il a pas marché, c'est très simple, c'est que à la base, un jeu à service comme Concorde qui est pensé comme un Overwatch-like, si les personnages ne marchent, ne parlent pas au public, il n'y a aucun monde où le jeu va fonctionner, même en free-to-play, et c'est pour ça que le jeu, là, il est totalement
échec cuisant,
et bah, il ne va jamais revenir, parce que les personnages, au-delà des mécaniques qui étaient quand même fun, ils n'ont pas réussi à parler au public. Et là, je peux comprendre que oui, il y a une question de chara-design un peu dégueulasse, plein de choses et tout, mais c'est pas parce que les personnages, ils appellent une sorte de blobby, il faut arrêter. Pareil avec, du coup, Sweet Baby Inc., là-dessus, on voulait en aborder, donc c'est une boîte de consultants qui a travaillé avec Remedy pour Alan Wake 2, par exemple, et avec plein de boîtes, je crois qu'il y a Naughty Dog, Rockstar,
Nintendo aussi, Nintendo Pitch, voilà. Passé par Sweet Baby Inc.,
et c'est juste des consultants. Et à un moment donné, je pense que vous réalisez pas l'importance qu'ont les consultants, au sens où ils n'en ont pas vraiment. Ils sont là pour faire des retours, pour dire voilà ce qu'on
fait, tout.
Mais à la fin, les développeurs et les prods, et donc ouais, l'industrie derrière, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et du coup, si on devait quand même émettre une réserve, et ça on l'avait mais plus par rapport au cinéma, c'est qu'en effet, comme quand il y a le mois de la Pride, voilà, où toutes les industries, toutes les marques sont en mode on met le drapeau et vous avez vu, on est gagnant et tout. Voilà.
Vous avez vu
Ça, en effet, c'est mercantile, ça peut être à critiquer, et c'est normal, parce qu'on est
quand même de capitalisation du mouvement, et en plus, on en rigole, il y a plein de mèmes, genre, à chaque fois, fin mai, c'est en mode, il y a la tempête corpo LGBT qui arrive et tout, avec toutes les marques qui commencent à sortir leurs bannières LGBT, ce genre de choses, mais juste pendant un mois, et après, 1er juillet, vous y
allez, hop,
orange. Ranger ça et on garde pour la prochaine.
On est bien straight, on est bien que on lance sur le maillot, non. Et donc forcément, on peut critiquer ce côté, comme je disais, le mercantile de la chose et de l'industrie, et le fait que ce soit cynique. Il y a des points, c'est pas fait par bonté, ou c'est pas fait parce qu'on veut du coup représenter tout le monde et dire non mais toi je t'accepte tes canettes. Non, c'est parce que tu vas me rapporter de l'argent si tu mets là-dedans. Et donc on peut critiquer ça, on peut critiquer la mauvaise écriture, on peut critiquer foncièrement les éléments de façon constructive en fait. Mais s'il faut arrêter avec la grille de lecture de c'est assez woke ou pas. Et vraiment, il y a un glissement. Et là, on l'a vu avec Julien Chiez aussi. Parce que, on va aborder ça très rapidement avant la
fin. C'est ça qui nous a donné envie de faire l'épisode.
Ouais. On voulait le faire juste avant. Et ça aurait été le clou dans le cercueil en mode OK.
On le fait maintenant.
Parce que Julien Chiez qui a donc félicité la. Enfin, félicité. Il a commenté la victoire de Trump sur les réseaux sociaux en disant ça témoigne d'un glissement un peu, on va dire, d'un ras-le-bol.
Voilà.
Des mœurs et tout, donc aux États-Unis était en France.
Le fameux Julien Chiez, voilà, qui prend pas trop parti, mais voilà, qui joue le côté un peu neutre, qui fait semblant de pas comprendre. Et
du coup, voilà, ça a taxé de divers manières. Je veux dire que, ouais, il allait clairement là sur un flou politique pour, on va dire, choper des dons vers l'extrême de gens qui sont plutôt d'extrême droite. Donc ils vont plutôt voter RN, ce genre de choses, et il était là en mode non mais on peut plus rien dire, moi je peux plus commenter, je suis pas là pour
comment dire, ça relève d'une mauvaise foi assez élevée de la part de Julien Chiez, et on n'a pas peur de le dire, et surtout que ça une personne comme Julien Chiez qui est en plus aujourd'hui le média numéro 1 sur YouTube de jeux vidéo, qui a plus de 900 000 abonnés, si une personne comme lui avec l'influence qu'il a commence à rider sur la vague de l'anti-woke, parce qu'il faut savoir que l'anti-woke c'est quelque chose qui est très lucratif, qui permet, voilà, parce que c'est le côté très réac, ça permet de faire des vues, c'est quelque chose, et on le voit. Et clairement, si là on commence à voir des influenceurs français, des journalistes français qui commencent à rider sur la vague de l'extrême droite pour juste capitaliser dessus, alors que clairement ils ont un audimat, clairement une communauté de gens
qui sont
très jeunes et très influençables, moralement, là, ça devient clairement atroce.
Ouais.
Et c'est quelque chose qu'on condamne fortement ici, parce qu'on ne veut pas d'un Julien Chiez comme un premier domino qui tend vers une pipeline de radicalisation. En fait.
Ouais,
ça peut paraître très tiré par les cheveux, mais je vous invite vraiment à vous intéresser sur la pipeline de l'extrême droite, qui est quelque chose qu'on a vu aux États-Unis. Il y a quelques années, parce que les États-Unis sont toujours en avance
ouais.
Tout, mais qu'on a vu aux États-Unis avec la l'incélisation de d'Internet et de Reddit et de 4chan, ou comment en fait des influenceurs clairement ride sur cette vague-là pour créer de l'oseille, et petit à petit la pipeline tant qui est de nature algorithmique, je ne vais pas rentrer dans les détails, ouais. Mais c'est quelque chose qu'on voit arriver en France avec des influenceurs comme je sais pas moi, Papacito, le raptor dissident, et qui petit à petit tend les gens vers des idées complotistes, vers de la le fait de pas des gens qui peuvent être climato-sceptiques,
ouais.
Et qui petit à petit, à la fin de cette pipeline, peut ramener les gens à du contenu antisémite qui sont clairement ultra condamnables, je vous apprends rien. Et on peut pas chacun, c'est-à-dire chacun sa responsabilité dans déjà en tant que journaliste, bordel de merde, genre est-ce que vous avez un minimum d'éthique? Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est clairement moralement c'est ultra condamnable. Ouais. Et jouer la carte de non mais je suis neutre, je fais que commenter, ça relève d'une mauvaise foi ou juste vous êtes quelqu'un de d'appropriément stupide, mais je refuse de croire que
Tiens, a fait comme ça de façon innocente et tout.
Tout à fait.
Donc de toute façon voilà, pour je pense pour après qu'on venir à la conclusion de cet épisode là, on a le cas donc essayer de définir qu'est-ce que c'était un jeu woke. On le voit si vous, vous pouvez pas entre guillemets à ça. Et dans tous les cas, à la fin de la journée, genre comment essayer de formuler ça? En gros, heureusement vous considérez que le jeu vidéo est un art, vous devez considérer qu'il est politique. Ça par exemple c'est un truc, c'est un fait. C'est que vous pouvez pas prendre le jeu vidéo en disant non mais en fait le problème c'est que, parce que ça a été aussi beaucoup relevé, c'est que si un jeu est woke c'est qu'il est politique et donc s'il est politique c'est pas fun. C'est un peu le problème. Alors que, et le problème c'est que enfin,
vous déjà, pouvez pas... C'est pas à vous de choisir déjà.
Déjà que vous pouvez pas genre faire un peu comme Far Cry 6 au début qui était en mode non mais on parle de Cuba et de dictature mais c'est pas vraiment politique. Si, vous avez un genre, ça, ça paraît indécent, mais au début, c'était quand même dire non, mais c'est pas politique, c'est juste pour jouer à la mitraillette et aux guerriers
et une dague.
Non, mais attendez, genre, voilà. Mais... Et du coup, le problème, c'est que si vous êtes un adulte normalement constitué et que vous considérez que votre passion, votre passe-temps, qui est le nôtre aussi, c'est le jeu vidéo, vous devez considérer qu'il est politique parce qu'il y a des gens derrière qui ont des points de vue qui subissent des influences extérieures à ça et du coup, qui en effet, genre, ont un point de vue sur le monde et ça en dit beaucoup. Et le truc, c'est que vous devez respecter ça et donc. Il y a un élément qui est important à prendre en compte, c'est que le jeu vidéo, pendant très longtemps, ça a été un espace pour les marginaliser. C'est que ce qu'on voit un peu comme les incels aussi actuellement, où on dit c'est des mecs tout seuls chez eux qui n'ont jamais vu de femmes et qui du coup ont que cet espace-là, j'ai de l'empathie pour le fait d'être, en effet, ils ont l'impression que c'est absurde et c'est dans leur tête, mais ils ont l'impression de se sentir menacés parce qu'il y a une sorte de gatekeeping de « non mais c'était mon monde à moi et on est en train entre guillemets de me le prendre ». Sauf que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ce n'est pas que à eux et qu'à la base, c'était l'espace de tous les marginalisés. C'est que toutes les personnes queer qu'on pourrait citer, ou les nerds, ou les gens dans la prod de rire quand vous étiez au collège et vous saviez pas trop vers qui aller, ils jouaient à des jeux vidéo. Et donc ces gens-là qui sont devenus développeurs ou éditeurs, forcément, ils veulent aussi maintenant se retrouver, avoir une représentation plus fidèle, avoir genre des personnages qui les ont genre motivés, comme des Link, des Samus, des Lara Croft. Et du coup, ils vont créer des personnages qui vont leur ressembler. Et à la fin de la journée, c'est grâce à eux que vous avez des jeux vidéo que vous aimez. C'est grâce à eux qu'il y a des Baldur's Gate 3, c'est grâce à eux qu'il y a des Alan Wake, c'est grâce à eux qu'il y a des
Baldur's Gate 3.
Et Baldur's Gate 3, à la base, ça avait été vu comme un jeu woke à sa sortie, il a eu le GOTY, et maintenant, c'est dire, enfin un jeu qui n'est pas woke face à ce Dragon Age, je vais le voir d'une mauvaise foi.
Vous êtes une mauvaise foi folle,
et du coup, tout ce que j'aimerais dire, c'est, vous pouvez pas, en fait, renier ces personnes-là. Il y a un moment donné où il faut avoir une forme de tolérance et, dans tous les cas, accepter qu'il y a de la diversité parce que c'est aussi grâce à ces gens-là que votre médium, il existe. C'est grâce aux troubadours que, genre, l'art existe. Il faut tout pour faire un monde et à un moment donné, genre, ouais, les mecs en spé-cirque qui font du diabolo devant les
lycées,
c'est grâce à eux que Elden Ring va arriver à un monde, existe à un moment donné. Donc, grandissez. Vraiment, voilà. C'est un peu le mot de la fin. On va pas vous recommander des jeux woke. Genre, clairement.
Alors, non, première recommandation, guys.
On attend vraiment de recommandations, à part que c'est pas à cause du wokisme que le jeu va mal. S'il y a bien un problème, c'est le capitalisme, c'est l'industrie qui fait qu'il faut tout le temps aller vers plus de revenus. Il y a jamais eu autant de licenciements. Si on devait faire un sujet, putain, genre, il y a encore eu plein de licenciements chez Microsoft, chez Sony, chez d'autres studios. Et vous êtes focus en vous disant non, mais est-ce que Elden Ring, c'est pas. Vraiment. Genre,
faut c'est une dire. Tristesse sans nom et ouais. Voilà. Engagez vraiment avec les heures qu'on vous donne. Et puis voilà, si vous êtes un incel et que pour vous c'est l'apocalypse que votre monde de poupées et d'action man et de Barbie deviennent politique tout à coup, c'est triste pour vous.
Ouais, voilà.
C'est triste pour vous. C'est triste pour vous, mais.
Mais ça a toujours été le cas, il a toujours été comme ça en fait.
Voilà.
Bref, c'est un excellent épisode. Promis, pour la prochaine fois, on parlera de jeux vidéo.
Oui, on va parler, je pense, d'un genre ou d'un truc un peu plus...
D'un genre. On va vraiment être ultra positif pour les prochains épisodes. Donc,
ouais.
En tout cas, merci. Merci à toi, Ulysse.
Bah, merci à toi, Sweet.
C'était RNG. C'était un dernier mot, non?
Too good.
Jouer à des jeux vidéo et surtout arrêter de combattre les chimères, genre les moulins avant. Soyez pas Don Quichotte. Voilà.
Merci beaucoup. C'était RNG. 93.9 FM. Radio Campus Paris, on vous dit à la prochaine. Ciao,
ciao, salut.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.